Immense plaisir que je vous accueille. J'ai senti qu'il va falloir vraiment que nous fassions quelque chose. Je propose que j'invente une conférence pour que l'UTB ait toujours sa place à la maison des syndicats. Je sens que je vais faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais agir. Oui, mais je vais agir parce qu'il n'y a pas de raison. Alors tout de suite, je vous prie de nous excuser parce que nous n'y sommes vraiment pour rien. Si vous voyez l'écran que nous avons ici, c'était les vraies couleurs. Ici, je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce que nous avons sur l'écran de l'ordi.
C'est impressionniste. On a une autre impression.
Oui, une autre impression. Alors, vraiment désolée, ce n'est pas de la faute du travail de Monsieur Collin qui a été plus qu'excellent. Il y a passé son été, son automne, voilà. Mais voilà le résultat ici, on n'y est vraiment pour rien. Alors, moi, cette année, je me suis dit, je ne vais pas me compliquer la vie. J'avais terminé l'an dernier sur ce tableau, pour ceux qui avaient assisté à l'école de Barbizon, si vous vous souvenez. Alors, ce que je vous propose cette année, comme on a mis cette image-là, eh bien, je vais faire le cycle dans l'autre sens, à l'envers. Donc, vous allez refaire l'école de Barbizon, mais à l'envers. Vous êtes d'accord? Non? Vous n'êtes pas venu pour ça? Bon, non, plus sérieusement. Ça me semblait évident, puisque vous aviez pressenti que nous allions travailler sur l'impressionnisme, donc de repartir sur ce tableau. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir pourquoi ces peintres impressionnistes qui, je dirais, dans les années 60, 70, ont été, même 80, ont été fort décriés parce que, comme je l'avais mis dans le petit mot que vous avez pu lire dans le programme, c'était mangé à toutes les sauces, quoi. Tout juste, il n'y en avait pas sur les boîtes de conserve des tableaux impressionnistes. Il y en avait vraiment partout. Si bien que les historiens d'art avaient complètement délaissé, on avait tourné la page, on n'entendait plus parler de l'impressionnisme qu'avec des grincements de dents et des ricanements. Et c'était quand même fort dommage parce que l'impressionnisme, il a quand même une place tout à fait importante pour les gens qui, comme moi, travaillons sur la modernité. Donc, qui dit modernité dit 20e siècle, avec tout ce qui s'est passé dans ce que j'appelais, il y a fort longtemps, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, le grand laboratoire d'idées créatrices, hein, où tout s'est mis en route à la fin du 19e, début 20e, et où on a vu paraître tant de mouvements aussi différents les uns que les autres, parfois longuement, parfois très, très, de façon très courte. Mais en tout cas, l'impressionnisme a tout à fait sa place dans, comment je pourrais appeler ça? Ça serait un peu Gaïa, ça serait un peu la Terre. C'est là où tout est parti, au départ. Hein. Justement, dans la suite, ou au contraire, en réaction. Mais l'impressionnisme a vraiment sa place. Parce que soit il a été... on a voulu continuer avec les post-impressionnismes et puis tout ce que ça a déclenché. Soit on n'a pas du tout aimé, et justement, on a réagi contre. Et donc, ça a déclenché aussi d'autres mouvements. Donc, dans tous les cas, l'impressionnisme a sa place. Et puis, j'ai envie de dire merci à tous les historiens d'art actuels qui nous ont proposé de très belles expositions et qui nous en proposent encore sur les artistes impressionnistes qui maintenant nous sont montrés individuellement, je dirais. Vous avez de très belles expos sur Monet, sur Manet, il y en a d'autres qui vont venir. Donc, je pense qu'il faut vraiment redonner à ce mouvement ses lettres de noblesse. Bien, alors, nous allons commencer, s'il vous plaît. Alors, là, on vous a mis une frise. Alors ça, si vous prenez un livre d'histoire de l'art ou un livre sur les impressionnistes, vous retrouverez assez facilement, si vous voulez. C'était pour un petit peu situer. Alors, je ne sais pas si c'est assez gros, si vous lisez. Parce que moi, personnellement, là, je n'arrive plus rien à lire. Vous ne m'avez pas fait la copie de... Non. Non, c'est pas grave. Parce que moi, personnellement, j'arrive pas vraiment bien à lire. Mais c'est pas... Bon, si vous voulez, si on va retenir les dates là qui sont importantes, 1863, Salon des Refusés. 1874, le premier salon impressionniste. Et puis, 1884, le premier salon des artistes indépendants. Cela, c'est important parce que ce sont trois salons différents. Hein. Parfois, dans certains livres de vulgarisation, ils font un amalgame. Alors que ce sont vraiment trois choses différentes. Hein. Alors bien, les trois, pour nous, ont une importance. Ça, vous le verrez au fur et à mesure que je vous présenterai des artistes cette année, hein, puisque ce cycle ne se terminera pas cette année, mais est programmé sur plusieurs saisons, on va dire, au niveau de l'UTB. Hein. Donc, cette année, c'est le début, et puis nous cheminerons avec des différents artistes. Mais éventuellement, ça, je pourrais vous le recommander lors d'autres passages, hein, c'est pas gênant. Donc, on va avancer. Voilà, ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est cela. Donc, l'apport de la technologie, connaissance sur la couleur. Il est vrai que souvent, lors de mes conférences, je vous ai parlé de ce cercle chromatique, et notamment, j'ai déjà souvent parlé de chevreul. Hein? Donc, là, aujourd'hui, bien sûr, on a remis d'autres artistes. La couleur devient donc très, très, très importante, évidemment, pour l'impressionnisme. Alors, au XVIIe siècle, décomposition de la lumière blanche, Newton présente le premier cercle chromatique. De 1790 à 1823, Goethe, qui n'est ni plus ni moins le Goethe qui a écrit « Les souffrances du jeune Werther » et « Faust », hein, c'est le même Goethe, hein, écrit quelques 2000 pages sur les couleurs. Et justement, là, je me suis quand même permise, je vous donnerai un petit passage. Goethe, en fait, attend d'avoir 60 ans, donc pour publier son grand traité des couleurs. Et il a travaillé sur ce traité des couleurs pendant 20 ans. Donc c'est vraiment quelque chose, je ne pense pas qu'il ait travaillé pendant 20 ans sur Werther. Par contre, le traité des couleurs, oui, c'est vraiment quelque chose qui pour lui est extrêmement important. Et justement, ce qu'il veut faire, c'est remettre en cause les théories de Newton. Lui, il part donc... Et tous, de toute façon, vont retravailler, ils reprennent... C'est un peu comme l'histoire de l'art, hein, c'est un cheminement. On reprend ce qui a été fait précédemment, on voit si on peut aller plus loin, si on peut contrer, c'est toujours de la même chose. Et en fait, Newton, au cours de ses recherches sur l'optique, qui avait été donc menée à la fin du XVIIe, avait démontré qu'à travers un prisme, la lumière blanche se décomposait en rayons multicolores. Et que, puisqu'à travers un autre prisme, elle recomposait du blanc, ces couleurs étaient constitutives de la lumière. Alors s'il y a des scientifiques parmi nous, je pense qu'ils comprennent certainement mieux que moi ce que je suis en train de raconter. Enfin, je tenais quand même à vous le livrer, parce que déjà là, j'ai fait attention de prendre quelque chose qui expliquait. Si je vous donnais vraiment ce qui est écrit, je l'aurais très mal lu, parce que j'avais un petit peu de mal à le comprendre. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder le cercle chromatique, parce que là, ça m'éclaire davantage. Mais je vous donne quand même des petites choses. Voilà, des petites bases qui sont évidentes pour le chef. Oui, j'ose pas le dire, pour le grand scientifique qui est notre président. Voilà. Mais moi, je suis une piètre scientifique. Alors, je continue. Donc, il fut... Rendons-lui hommage à Isaac Newton, comme vous l'avez compris sur ce schéma, le premier donc à nous présenter un cercle chromatique à partir donc des couleurs diffractées par la lumière blanche. Bon, là ça va un peu mieux pour moi, c'est un peu plus clair. Alors concernant la lumière et les couleurs, Goethe lui donc réfute la théorie de Newton et prône l'expérience sensitive et de ce fait préfère postuler que les couleurs naissent de la rencontre entre l'ombre et la lumière. Alors là, c'est vrai que ça me parle beaucoup plus. Mais Goethe était moins scientifique aussi. Donc ça me parle plus. Voilà, il a trouvé les mots. Si l'approche de Goethe, donc, comme je viens de vous le dire, n'est pas vraiment scientifique, elle n'en est pas moins stimulante, car elle se fonde sur les conséquences de la couleur sur notre vision. Il relève les illusions d'optique et tente, à la fin de son volume, dans la sixième section, une analyse des effets physiques et psychiques des couleurs. Le cercle chromatique qu'il propose, donc, est ainsi divisé en deux grandes parties, l'une positive et l'autre négative. Positive, la lumière, négative, l'ombre. Assumant ainsi toutes les harmoniques de ces deux termes. Et bien sûr, quand il a été traduit, bien après sa mort, hein, en 1840, il a été traduit en anglais, Le peintre qui a été absolument émerveillé par sa théorie fut Turner. Et Turner, bien sûr, nous serons appelés à en parler lors de différentes présentations d'artistes impressionnistes, hein, parce que Turner, il a vraiment sa place dans les précurseurs, bien entendu. C'est l'histoire de l'art, l'histoire. Et alors, enfin, pour commenter Chevreul, dont je vous avais souvent parlé, en fait, Chevreul, il est chimiste au départ, et c'est un Français. Donc, Eureka, nous en avons quand même un sur les trois. Il était directeur des teintures. Ça, c'est notre président. J'aime bien sa sonnerie, elle me plaît. Directeur des teintures à la manufacture des Gobelins. Et en fait, il est très connu pour son ouvrage « De la loi du contraste simultané des couleurs » qui est paru en 1839. J'ai oublié de vous dire, donc le traité des couleurs de Goethe lui paraît en 1810. J'avais oublié de vous donner la date. Alors en fait, je vais vous donner donc la définition du contraste simultané qu'a donné Chevreul. Si l'on regarde à la fois deux zones inégalement foncées d'une même couleur. Jusque-là, je comprends. Vous aussi ? Si je comprends, je pense qu'il n'y a pas de problème, vous comprenez. Ou deux zones également foncées. Donc, inégalement d'un côté, également de l'autre. Alors, cette fois, également foncées, mais de couleurs différentes. Donc, inégalement de même couleur, également de couleurs différentes. Qui soient juxtaposées. Ça, c'est important. L'œil apercevra, si les zones ne sont pas trop larges, des modifications qui porteront dans le premier cas, donc dans le cas de deux zones inégalement foncées d'une même couleur, donc elle portera dans ce cas-là sur l'intensité de la couleur, d'accord, hein. Et dans l'autre cas, donc les couleurs qui seront également foncées mais de couleurs différentes, eh bien dans ce cas-là, elles porteront sur la composition optique des deux couleurs respectives juxtaposées. D'accord ? Alors, le but de Chevreul, en fait, est de permettre aux peintres, et aussi, n'oublions pas, aux artisans, parce que ça, c'est important, il était dans une manufacture de teinture, hein. Donc, il travaillait avec tous les artisans décorateurs. Et donc, tous, qu'ils fabriquent des tapis ou qu'ils soient jardiniers, vont avoir à assortir leurs couleurs d'une manière agréable pour l'œil, d'une manière plaisante. Mais sa loi a une portée en fait beaucoup plus grande, puisqu'elle ne permet pas seulement l'harmonie, moi c'est vraiment ce qui m'intéresse, l'harmonie, bien entendu, mais elle œuvre aussi sur une meilleure compréhension du visible. Et tous les artistes impressionnistes, et bien sûr encore plus les artistes post-impressionnistes, hein, là je fais appel aux pointillistes, aux divisionnistes, hein, Seurat, etc., etc., Signac que nous verrons beaucoup plus tard, eh bien, tous ces artistes, bien sûr, vont se replonger sur le traité des couleurs de Chevreul. Bien, alors, on passe à la suite. Alors, dans les apports de la technologie, il y a autre chose qui est très important, c'est la peinture. Vous savez très bien qu'au Moyen-Âge, et moi ça c'est quelque chose que je trouve fabuleux parce que c'est mystérieux, on avait des traités de peinture, on fabriquait soi-même sa peinture. Et dans la fabrication de la peinture rentraient des tas d'éléments, dont des éléments qui ne passaient pas d'un atelier à l'autre, hein, c'était les secrets de fabrication. Donc on a évolué petit à petit, et voilà qu'enfin, les artistes vont avoir des tubes en métal. Ce qui veut dire que quand on va vouloir aller peindre sur le motif, évidemment, ce sera beaucoup plus facile. Parce que s'il faut emporter tous les petits pots de peinture que l'on a fabriqués, c'est quand même compliqué. Donc, au début du 19e, les vessies de porc destinées à contenir et à conserver les couleurs à l'huile apparaissent. En 1841, un peintre américain, John Gough Rand, invente le tube de peinture en métal compactable. Ça, c'est important. Fermé hermétiquement à l'aide d'une pince. Il dépose un brevet décrivant un tube métallique souple en étain pur ou en plomb, permettant de conserver les peintures à l'huile. Et en 1850, eh bien, la reprise de cette invention par le français, le franc, je ne sais pas si ça, mais ça existe toujours, hein, toujours. Le franc, moi je me souviens quand j'étais gosse, on avait nos peintures, le franc, et c'est toujours... Mais comme il y a tellement de choses qui disparaissent, on finit par... Parfois je me pose des questions. En 1859, donc, il commercialise même le franc, les premiers tubes de peinture, tels que nous les connaissons aujourd'hui, à fermeture étanche, grâce à l'ancêtre du bouchon à pas de vis, ce qui permet aux artistes donc de parcourir la campagne très aisément, bien entendu. La suite, s'il vous plaît. Alors, dans les apports de la technologie, eh bien, il y a bien sûr pour vous, Chalonnais, quelque chose qui est capital, c'est la photographie qui se met au service des beaux-arts. J'y ai souvent fait allusion parce que la photographie, pour moi, elle est vraiment essentielle à la peinture. C'est un outil fabuleux. Certains peintres se sont complètement, quand c'est arrivé, de toute façon, toute nouveauté fait peur. Mais surtout, on s'est dit, notamment je pense aux portraitistes, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'était tellement plus facile de faire une photo, plus accessible, financièrement parlant aussi, que d'aller se faire portraiturer dans un atelier. Donc, effectivement, il y a toute une catégorie de peintures qui aurait pu disparaître. Mais l'histoire de l'art évoluant, les peintres plus malins, entre guillemets, se sont dit, mais finalement, servons-nous de la peinture, de la photo, comme d'un outil, comme on peut aujourd'hui se servir, et je dis bien se servir comme d'un outil, de l'informatique. Il faut que ça reste un outil pour les peintres. Pas que ça devienne leur moyen de création unique. Il faut que ça reste un outil. Donc, en 1826, notre cher Nicéphore, je l'appelle Nicéphore, hein, on est chez nous ici, réalise la première photographie, celle d'un paysage vu depuis sa fenêtre. Et ensuite, vers 1839, la photo permet de rendre la réalité dans ses moindres détails et donc de libérer... artistes, peintres, etc., et de pouvoir justement confronter les deux techniques, mais sans que l'une empiète sur l'autre, je dirais. Hein. Et dans les années 50, donc ça évolue, il y a Bayard, etc. Bon, je vais pas tout reprendre. En 51, on a un souci à chaque fois, on peut pas. Qui s'est pas bien faite, d'accord. En 51, Mérimée décide de dresser un vaste inventaire de la France. Alors, je vais finir de lire là parce que c'est... Non, il n'y a rien d'autre. Mais même ici, on a le même problème. D'accord. Bon, tant pis. Ne vous inquiétez pas pour le commentaire après, pour les explications, je l'ai fait moi-même, donc il n'y a pas de souci. Nadar, alors bien sûr, ça, ce n'est pas notre grand ami à Chalon-sur-Saône, hein, Nadar. Mais bon, il existe quand même, respectons-le. Donc, l'appareil photographique pourra être emporté à l'extérieur. Et ça aussi, c'est important, parce que c'est pareil. Avant, vous imaginez le matériel qu'il fallait, qu'il porte. Hein, on est dans les mêmes configurations, hein, que ce soit le tube de peinture. Mais pour moi, l'importance de la photographie, elle va bien au-delà. Elle va aller surtout, et ça, vous allez le voir maintes fois, dans ce que j'appelle le cadrage photographique. Elle va permettre aux peintres des zooms, dans leur tableau, justement, hein, chose qu'ils n'avaient peut-être pas pensé avant. On va vous montrer finalement des morceaux d'intérieur et non plus vraiment un intérieur bien cadré. Bien... Là, on va faire comme dans la photographie, c'est-à-dire qu'on aura un panorama, mais que l'on pourra couper à tout moment et nous apporter une nouveauté dans l'acte de peindre, dans le tableau. Hein. Donc ça, vous allez le voir au fur et à mesure que nous progresserons dans notre cycle. Bien, alors ici, donc, on vous a mis... Alors, voyez un petit peu comment Monsieur Collin utilise la technique. La technique au service de Monsieur Collin, ou Monsieur Collin innovant avec la technique, je ne sais pas comment il faut dire. Mais donc voilà, vous avez Nadar avec cet autoportrait qui a été reconstitué comme dans la réalité. Nadar peint par Delacroix. Nadar qui photographie Delacroix, pardon. Nadar qui photographie Gambetta. Rosa Bonheur, hein, que l'on avait étudiée lorsque nous avions parlé des femmes peintres, et puis on l'a revue pour l'école de Barbizon. Et puis donc Napoléon III et Eugénie, voilà les styles de photographie. Moi j'ai encore des photographies de mes grands-mères qui sont avec cette couleur sépia, hein, que nous aimons beaucoup, et dans ce genre de format des portraits qui sont presque un peu académiques tout de même. Hein, voilà. Bien, on passe à la suivante. Alors également les paysages, hein, très beaux paysages photographiques de Gustave Legret, hein, qui nous montre des arbres dans la forêt de Fontainebleau. Donc là, on revient à Barbizon. Hein. Là aussi, ce coucher de soleil, hein, là, qui est superbe. Et puis, ici, à Enghien, hein, en 1855. Donc voilà comment la photographie... Vous voyez, là, on voit bien le cadrage, hein, ce dont je vous parlais. On a des cadrages tout à fait différents de ce que l'on avait avant dans les paysages, justement, au niveau de la peinture. On passe à la suite. Et parmi donc aussi les innovations qui vont être très très importantes pour les peintres, parce qu'ils vont pouvoir se déplacer non plus simplement dans leur région, mais aller beaucoup plus loin, c'est bien sûr l'industrialisation, et plus précisément pour nos artistes, le chemin de fer, donc qui permettra de se déplacer. L'âge industriel et les chemins de fer intéressent les peintres du 19e. D'autre part, ils vont aussi commencer, et c'est là où ça devient vraiment... moi ça m'intéresse par rapport à ma recherche de modernité dans la peinture, parce qu'ils vont être témoins de leur temps, et donc notamment les impressionnistes, quand vous avez la gare de l'Est qui est représentée par exemple, là, dans certains tableaux impressionnistes, j'en dis pas plus puisqu'on aura l'occasion de les regarder, de les disséquer entre guillemets, eh bien donc ils vont être témoins de leur temps et vont nous montrer justement le chemin de fer, les voies de chemin de fer, etc. Dans leurs tableaux, hein. Chose qui avant l'invention du chemin de fer ne pouvait pas apparaître évidemment, hein. Donc ça aussi ça va être important. Alors de nouveau, donc là nous avions une frise qui est un petit peu plus, qui est plus lisible, hein, pour vous, avec... On est reparti assez loin. Hein. Le néoclassicisme, le romantisme, donc ça c'est tout la fin du 17e, la fin du 18e, début 19e, pour arriver ensuite donc au réalisme. Hein, alors avec les différents artistes, on va les voir dans les petits. On va vous agrandir les petits tableaux en couleur qui sont en dessous. Hein. Et puis après donc l'impressionnisme et le post-impressionnisme qui pour le moment reste dans le blanc, puisque nous cette année c'est l'impressionnisme qui nous intéresse. Donc voilà, alors on vous montre ici un atelier de dessin à l'école des Beaux-Arts, donc en 1855, donc avant l'impressionnisme. Hein. Alors essentiellement... On travaille sur le nu, donc il y a un modèle vivant. Maintenant, c'est de plus en plus difficile d'avoir des modèles vivants dans les rares endroits. Et j'entends école des Beaux-Arts, mais pour les étudiants, j'entends. Je ne parle pas des cours d'adultes où là, on arrive à avoir des modèles vivants. Mais je parle vraiment les rares écoles d'art qui pratiquent encore le dessin comme on devrait le pratiquer. Parce que là, je rends hommage à Ingres, hein, qui disait que, en gros, que le dessin était vraiment le maître mot pour tous les futurs artistes. Mais il n'a pas tort, hein, il faut savoir dessiner, c'est vrai. Et je pense à Saint-Étienne, où on a encore des cours, où on a encore une école des Beaux-Arts, qui, justement, Saint-Étienne étant une ville qui, sur le plan culturel, est plutôt axée vers la modernité, vers l'avant-gardisme, mais qui, dans son école des Beaux-Arts, eh bien, n'a pas oublié, n'a pas perdu de vue qu'il faut travailler sur le corps humain, hein, pour avoir les proportions, etc., etc. Et donc ici, vous voyez comment c'était à l'époque, bon, 1855, notre premier salon impressionniste, 1874. Donc vous voyez, on n'est pas très très, on est dans cette seconde moitié du 20e siècle. Hein. Alors avec ce tableau c'est très important parce que justement là, on a l'apport de la lumière, hein, la verrière là qui est très très, qui met notre modèle justement en pleine lumière. Et puis, vous voyez aussi, on travaillait aussi beaucoup sur les plâtres. Hein. C'est ce que vous avez à l'arrière-plan. On en voit aussi bien au niveau des têtes qui sont accrochées et puis des corps qui sont également dans la partie gauche du modèle. Hein. Et puis donc, alors, les élèves qui sont là en train de travailler. Bien, on va passer au tableau suivant. Alors, là, c'est un salon en 1880. Alors, on vous a surtout, c'est pas pour, pour commenter l'artiste, hein, qui est peu connu. Ce qui nous a intéressé dans ce tableau-là, c'est pour vous montrer comment étaient disposés les tableaux dans les salons dans ces années-là. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas la chance d'être plutôt bien placé, j'entends, c'était un petit peu difficile d'apprécier les œuvres. Mais je pense que vous avez tous... Moi, quand je suis arrivée à l'école d'art de Chalon, et puis quand j'étais étudiante, je me souviens très bien qu'un jour, Serge Lemoine nous avait amenés au musée de Chalon-sur-Saône pour nous dire, vous allez voir ce qu'était un musée au XIXe siècle. Parce que bon, l'arrivée des nouveaux conservateurs là, ont un petit peu dépoussiéré tout ça, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est presque dommage, parce qu'on avait encore quelque chose de vivant qui était tout à fait dans l'esprit. Les tableaux étaient tous empilés les uns au-dessus des autres. Hein. Moi, je pense que vous avez tous vu ça. Hein. Voilà, on ne voyait rien. Il aurait fallu garder juste une salle comme ça, hein, pour vous montrer ce que c'était l'intitulé avant. Hein. Mais c'est vrai que c'était dommage, qu'il y avait des œuvres qui étaient très, très intéressantes, qu'on a redécouvert fort heureusement après, parce qu'on n'arrivait pas à les... Et c'était vraiment... On avait horreur du vide. Hein, c'était ça. Il fallait montrer tout. Tout sans exception. Hein. Je ne sais pas s'il y avait des choses en réserve, mais en tout cas, on montrait tout. Voilà, l'image suivante. Alors, ici, on vous montre le Palais de l'Industrie de 1855, une photo de Baldus, parce qu'en fait, ce Palais de l'Industrie, quand on vous dit qu'il y avait lieu des salons, les salons avaient lieu ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous le montre. Hein. Donc, tous les salons, alors bien sûr, pas le salon des refusés, mais tous les salons avaient lieu ici, hein, dans ce bâtiment très, très cossu, très, très solide. Hein. Attention. Hein. Ah oui, c'est vraiment... Mais c'est bien l'esprit aussi des salons qui étaient, j'emploie le mot, académiques, bien entendu. Hein. Donc, peut-être qu'un jour, je vous parlerai des salons. Ça, c'est quelque chose que j'ai dans la tête aussi.
On va avoir une conférence sur le premier salon, mais au XVIIIe
siècle. Ah d'accord, ok. D'accord, très bien. Ah ben c'est très bien. Alors si vous pouvez y assister, Mathieu en plus, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, donc n'hésitez pas. Je sais que vous allez nombreux à ces conférences, il n'y a pas de problème. Alors, le salon de 1850, voilà donc quelques-uns. Alors, le salon tout à fait officiel, là, hein, bien entendu. Hein. Quelques-unes des œuvres que l'on pouvait voir. Alors, bien sûr, moi, je mets l'accent sur Gourpay, hein, le fameux enterrement à Ornans, hein. Delacroix. Alors là, on est encore avec le bon Samaritain, Chassériau, le peintre Jérôme, hein, que je vous recommande, si c'est un peintre académique, qui a eu une très belle expo il y a à peu près 5-6 ans au musée d'Orsay. Hein, c'est vraiment un peintre à découvrir et redécouvrir. Hein, ça, par contre, est très, très beau. Isabey, dernièrement, je me suis prise à regarder des œuvres. C'est pas inintéressant non plus. Hein. Meyssonnier, alors, et là, on retrouve des noms. Théodore Rousseau, hein, École de Barbizon. Alors, c'est pas, il y a des gens qui ne sont pas venus l'an dernier, qui n'ont pas suivi le cycle de l'an dernier, c'est pas grave, hein. Vous allez sur Internet ou vous allez à la bibliothèque de Chalon, vous cherchez École de Barbizon et vous essayez de trouver des choses et ça vous mettra un petit peu dans le cycle pour cette année, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous regardez surtout les paysages de l'École de Barbizon. Alors, John King, que l'on retravaillera, Daubigny, École de Barbizon, là aussi. Hein, voilà, on a sélectionné ceux qui, pour nous, étaient les plus importants. Alors, on passe le suivant. Alors, les expositions universelles aussi ont une importance tout à fait capitale parce que dans les expositions universelles, bien sûr, il y a les pavillons des différentes nations qui sont invitées. Et bien sûr, dans le pavillon français, on laissait une large place aux beaux-arts officiels. Là encore, hein, académique. Donc on retrouve Courbet avec l'atelier du peintre, on retrouve Ingres, Delacroix, Daubigny, Troyon, Cabanel, alors là, on est tout à fait dans les peintres très, très académiques. Hein. Ingres, alors bien sûr, qui lui aussi est vraiment le peintre académique par excellence. Hein. Donc on reviendra aussi, tout en travaillant sur les tableaux des artistes futurs, on reviendra. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner juste une approche. Hein. Le salon de 1863, donc le fameux salon des refusés. Hein. Parmi les peintres que j'ai jugés ici, j'ai applaudi ceux qui... attendez, j'ai un problème là. S'inspirent, merci. Non, parce que là, je ne voyais plus. J'ai un problème avec mon œil et j'étais pas... Ceux qui s'inspirent de la nature et qui comprennent que l'idéal n'existe que dans l'interprétation des choses vraies, ceux-là seuls sont appelés à régénérer l'art moderne. Et c'est donc Arthur Stevens qui nous livre ce message. Alors, Puvis de Chavannes, ici avec le repos. Alors, Puvis de Chavannes, je vous invite, bien sûr, je le fais à chaque fois, d'aller le voir dans le très beau Palais Saint-Pierre à Lyon. Hein, c'est quand même pas très loin et n'hésitez pas. On retrouve le peintre Jérôme, on retrouve Corot, que nous avons déjà bien regardé l'an dernier, mais qui est tout à fait aussi dans les précurseurs de l'impressionnisme. Très important, il a tout à fait sa place. Théodore Rousseau, Daubigny, etc. Manet, alors après, là, côté refusé, donc, nous avons Manet, Fantin-Latour, Whistler et Jean King. Oui. Ouais. Merci. Voilà, alors là, avec ce tableau de Cabanel, je vous disais, lui, il est académique par excellence. Donc là, bien sûr, lui n'est pas dans le salon des refusés, bien au contraire. Hein. Voilà ce que l'on aimait, voilà ce que l'on voulait. Hein. Donc, des chairs laiteuses, quasiment asexuées, ça c'était aussi très, très important pour l'époque. Hein. Et puis, donc, des scènes plutôt mythologiques, hein, la naissance de Vénus, avec les poutilles qui sont tout autour de Vénus, là. Bon, quelque chose de... Bon, je ne dis pas que ce n'est pas beau, hein, moi, je n'ai pas de jugement de valeur à apporter, ce n'est pas mon rôle. Mais, bien sûr, vous voyez, un ciel aussi qui est très, très laiteux, lui aussi, hein, très... Il ne se passe pas grand-chose. Même l'eau... Bon, c'est vrai que c'est la naissance de Vénus, donc... mais c'est relativement, tout est relativement calme, hein, on est dans quelque chose. Alors, on va passer l'image suivante. Voilà, donc le fameux, alors là on vous a mis le titre d'origine, hein, parce que le déjeuner sur l'herbe, avant de s'appeler le déjeuner sur l'herbe, s'appelait le bain, hein, ne l'oubliez pas. Et donc lui, bien sûr, il fait partie des refusés. Hein, à chaque fois on a mis le petit, vous voyez, on le voyait, bon on en aperçoit un petit morceau, hein. C'est pas, l'important, c'est qu'on le voit. Donc, évidemment, le but n'est pas de vous le commenter aujourd'hui, puisque je vais vous consacrer cette année deux séances sur Manet. Hein, donc, vous aurez largement le temps de travailler sur ce tableau. Ça, on le fera ensemble. Mais simplement, aujourd'hui, je vous le montre à titre informatif. Hein. Alors, ce que j'ai quand même voulu vous montrer, c'est d'où il vient, ce tableau. Donc un regard porté par Manet à la fois sur le jugement de Paris de Marc-Antonio Raimondi et également bien sûr sur le concert champêtre du Titien. Le tableau de... Et voilà l'interprétation, je dirais, de Manet par rapport à ces deux tableaux. Donc vous voyez comment les choses vont évoluer. Mais on part, là encore, hein, c'est toujours... On part d'un regard sur ce qui s'est fait auparavant. On ne renie pas le passé. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de l'art. Et c'est pour ça que parfois mon propos, quand je parle de l'art très contemporain, d'une certaine catégorie d'artistes, parfois j'ai un petit peu, je suis ulcérée, parce que j'entends, on balaye tout ce qui s'est fait avant. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe aujourd'hui avec une forme de ready-made, le mot n'est plus employé, mais une forme de ready-made, quand on vous montre, bon ça se faisait, je me souviens d'être venue à la, ça s'appelait encore la maison, l'espace, oui la maison de la culture qui maintenant est votre espace des arts, mais il y a, quand je faisais mes études, on venait avec nos professeurs, et je me souviens, on avait eu toute une salle, donc à l'actuel espace des arts, où il n'y avait que des pianos qui avaient été peints en rouge, en bleu, des réfrigérateurs, des machines à laver, etc. etc. Donc, c'était nec plus ultra ce qu'il fallait absolument voir si on voulait tendance, comme diraient nos jeunes amis. Simplement, ces artistes-là, il ne faut pas qu'ils oublient qu'en 1914, un certain Marcel Duchamp a montré un porte-bouteille, a montré une fontaine. Hein, et il n'était pas, moi je vous parle des années 80, là 1980, lui c'était 1914. Donc je regrette, c'est toujours une continuité, une réinterprétation, un autre regard, mais à chaque fois ça progresse. Mais on ne balaye pas tout, faux, c'est faux. Et non, moi, même à la FIAC, hein, je ne suis pas allée à celle de cette année, mais bon, j'ai regardé les revues, il y a quand même des artistes qui reviennent aussi au figuratif. Et les expos actuels nous montrent bien, je vous recommande, vous n'y passerez peut-être pas autant de temps que je l'ai fait moi, parce que j'attendais tellement cette expo depuis tellement longtemps, où j'ai eu la confirmation de ce que je pensais en plus, donc j'étais ravie, c'est l'expo de Braque. Allez voir Braque, je vous en supplie, faites-le, allez-y. C'est sublime. Mais il y a toute une partie qui est consacrée donc à Braque quand il est fauve, sa période fauve. C'est extraordinaire. Hein, et on voit bien cet art très figuratif. Et à la fin, il revient vraiment au figuratif, mais pas à la façon de Picasso. Lui, il revient complètement au figuratif. Donc, il a eu sa période fauve, il a sa période papier collé. Et là, c'est formidable dans l'expo, parce qu'on voit bien que c'est lui qui en est l'inventeur, et ils le disent cette fois. On l'affirme. On ose le dire. Enfin. Hein? Et puis après, bon, on voit son évolution, cubisme, et puis après, il continue. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment toujours appréhender l'histoire de l'art, effectivement, comme une frise historique. Hein? D'accord ? Alors, Puvis de Chavannes, là, on le voit bien, hein, Puvis de Chavannes, le repos. Alors, Puvis de Chavannes, c'est vrai, c'est un artiste qui a vraiment beaucoup œuvré aussi, lui, pour la modernité, hein, pour des tas de raisons. Là, si vous voulez, sans la couleur, pour le choix du thème, alors je dis bien sans la couleur, hein, on pourrait penser presque à Nicolas Poussin. Parce qu'on est dans le positionnement des sujets, etc., etc. Sauf que, bien sûr, Poussin, c'est le coloriste par excellence. Hein. Alors qu'ici, justement, on balaye complètement. Alors, c'est un peu plus coloré quand même, qu'on a donc ce problème avec l'écran aujourd'hui. Mais bon, vous pourrez éventuellement retrouver les tableaux, hein, soit dans des livres, soit sur Internet. Donc, veuillez nous excuser, on n'y est vraiment pour rien. Hein. Mais malgré tout, c'est pas le coloriste tel que les Poussins. Mais il va énormément apporter, être regardé par des artistes du XXe siècle, Puvis de Chavannes. Hein, de la fin du XIXe, début XXe. Donc c'est important de vous le replacer ici. Alors Fantin-Latour, qui lui aussi est refusé. Alors on comprend, regardez la partie droite. Oubliez les têtes des personnages et vous êtes dans une gestuelle picturale à la Turner. Vous enlevez les têtes, là regardez, c'est extraordinaire, hein, on est complètement dans ces effets de lumière. Alors évidemment, ça a énormément dérangé. Et je vous ai montré Cabanel, la naissance de Vénus, vous voyez bien ce qui peut déranger. Hein. On est dans une peinture très léchée, hein, très, très lisse. Et tout d'un coup, là, on vous donne des... Il y a un tourbillon, c'est une symphonie, c'est une symphonie de couleurs.
C'était un héritage de Rembrandt.
Ah ben complètement, aussi. Ah oui, oui. Très justement, Françoise dit c'est un héritage de Rembrandt, oui, totalement aussi. Hein. Avec un nouvel apport, encore plus... Mais c'est vrai. Ah oui, oui, parce qu'on a en plus, on a complètement l'ombre et la lumière. Et l'ombre, regardez ce qui est très intéressant, l'ombre, elle est au premier plan, au tout premier plan. Et là aussi, regardez hein, ce qui se passe là, de part et d'autre. Hein. Et ça, c'est extrêmement important pour toute la suite. Il y a les nabis qui vont se servir de ça aussi. Pas au niveau de la touche picturale, mais au niveau de placer comme ça des ombres au premier plan, devant, toujours. Hein. Image suivante. Alors, refuser John King. Alors, c'est vrai que quand on voit ce genre de tableau, On se dit, attends, qu'est-ce qui les a choqués? Parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas envie de regarder un réfrigérateur dans une exposition. Si on le voit dans... C'est très à la mode d'avoir des cuisines colorées, moi je trouve ça génial. Mais dans une cuisine, c'est vrai que si vous êtes dans un musée, si on vous met un beau réfrigérateur rouge, vous n'allez pas forcément être là comme ça, un quart d'heure devant le réfrigérateur pour savoir quel est le propos philosophique de l'artiste. Parce qu'en plus, c'est ça actuellement. Hein. Il faut y voir un propos philosophique, hein, conceptuel, philosophique. J'aime encore mieux, c'est encore plus méchant. Comme quoi, voyez, hein, j'ose avec vous. Vous savez que j'ai toujours osé. Voilà. Mais, non, quand je... Mais, bon, bah, je vous dis pourquoi, ce qui s'est passé. Bah, regardez la taille du ciel. Ah bah, oui. Puis un ciel qui est quasiment un petit peu comme Manet quand il fait son Fifre. On lui a reproché qu'il n'y avait pas de fond. Là, c'est un ciel bah, quasi sans nuages. Donc, c'est quoi cette quantité de bleu, bleu-gris, oui, c'est bleu-gris, les nuages, on les aperçoit à peine, vous voyez, c'est comme ça, un petit liseré blanc, bon. Et puis, alors, ces ruines, comme ça, là, qui sont posées là, comme un jeu, comme une construction, comme si c'était plaqué, collé. Ça a gêné. Parce qu'on n'est plus dans... Voilà. Et vous voyez comme quoi, refuser, ça ne veut pas dire... c'est pas forcément une dame qui va montrer ses charmes comme l'Olympia. C'est pas forcément ça, vous voyez. On peut aussi bien refuser ça. Donc, il y a tout un état d'esprit. C'est bon, vous pouvez passer à la suivante. Alors, Jérôme, lui, bien sûr, n'est pas... Lui, peintre académique, passe. Mais c'est très, très, très beau, Jérôme. Hein. Sincèrement, moi, c'est vraiment un peintre que j'ai redécouvert. J'avais une collègue quand j'étais à l'école d'art qui en parlait beaucoup et j'étais ravie d'aller voir l'expo et je me suis vraiment régalée. Excellent peintre, mais évidemment. Jérôme, déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ses apports de couleurs, alors là, c'est pareil, ça passe pas. En fait, je vais vous le commenter en regardant plutôt ici. C'est beaucoup plus... le premier plan est beaucoup plus dans le sombre, si vous voulez, donc le bateau, hein, c'est beaucoup plus sombre. Et en fait, on n'est pas dans du blanc comme vous avez ici, on est plutôt dans du rosé, hein, rosé-orangé, c'est entre les deux. Hein. Donc, on a quelque chose bah, qui est dans la suite du radeau de la Méduse, si vous voulez, hein, du romantisme, ah oui, complètement, hein, complètement. On est là-dedans, dans cet orientalisme que les artistes ont beaucoup aimé aussi. Hein. Donc ça passait. Par contre ça, ben voilà, refusé. Whistler, devant lequel aujourd'hui on est... Vous saviez, il y avait cette superbe exposition, il y avait Whistler, Turner et Monet. Oui. Et bien ça ne passe pas. Ben évidemment, vous avez quasiment... Ben voilà, j'allais vous dire, j'allais aller plus loin moi, vous savez que j'aime bien aussi l'art abstrait, donc j'allais vous dire, en avant-première, carré blanc sur fond blanc, quelque part, si on oublie le sujet, c'est blanc sur blanc. Hein. Et en plus, c'est le choix aussi du format du tableau, parce que là on commence, je vous ai parlé que je vous parlerai de format, de cadrage et tout ça, là, format au blanc, comme les affiches, affiches, ce n'est pas noble. La peinture, elle, est noble. Donc, il a tout faux. Il a faux pour le format. Il a faux pour le choix de ses non-couleurs, qui sont toujours des non-couleurs à cette époque-là. Hein. Le blanc et le noir et le gris deviennent couleurs qu'au XXe siècle, avec les artistes abstraits, qui vont vraiment utiliser les non-couleurs comme des couleurs. Mais, à cette époque-là, on est toujours dans la non-couleur. Donc, beaucoup trop de non-couleurs. Et puis, peut-être aussi la statique et puis la physionomie. Le portrait psychologique du personnage. Ah bah oui. Oui, voilà. Bon, voilà. Mais il a raison, le président. Hein. Vous avez tous entendu? Non? Ah bah, je vais vous traduire. Que je ne traduis pas. Entre guillemets, je cite. Elle fait la gueule. Mais c'est un peu ça, hein. Mais il y a toute une portée. Non, parce qu'il y a toute une portée psychologique qu'on veut nous montrer. Non, moi je pense qu'elle est beaucoup plus, elle est perturbée. Moi je vois plus ça. Hein? Oui, un peu ça, oui. Non, mais c'est le scientifique qui parle. Hein. Alors, le fameux salon de 1874, donc salon de nos impressionnistes. Hein. Alors là, je vais quand même reprendre mes notes, un petit peu, uniquement pour vous donner quelques chiffres, parce que vous savez que je suis fâchée avec les chiffres. 30 participants. Il y a 165 toiles et donc c'est la première exposition de ceux qui vont devenir les impressionnistes, hein, parce qu'ils ne le sont pas encore. Et là, je vais reprendre la citation que vous aviez, que vous aviez tous dans votre sur Internet, je pense, hein, où j'avais mis la citation là. Ce sera donc le 15 avril 1874, le photographe Nadar prête son atelier, qui devient alors le théâtre d'une exposition rassemblant Monet, Sisley, Pissarro, Degas, Cézanne, Renoir et Berthe Morisot. Vous notez au passage qu'il manque quelqu'un ? Qui ? Non, Monet y est. Manet. Manet n'y est pas. Ne mélangeons pas les cuillères en argent avec les cuillères en aluminium, on va dire. Voilà. Je vais le dire, voilà. Je n'ai pas voulu dire les torchons avec les serviettes, mais c'était là. C'est une autre façon de dire les choses. Donc, Manet n'y est pas. Alors, oui, alors là, bon, ça c'est le salon. On reviendra bien sûr, hein, surtout, je ne vais pas aller plus loin. On reviendra sur tous ces artistes. Et on va un petit peu aller donc dans ce qu'on a appelé nous aujourd'hui les prémices impressionnistes, donc sur les traces des précurseurs en Normandie et notamment la fameuse ferme Saint-Siméon. Alors vous savez que par habitude, je ne vous donne pas de bibliographie au début, surtout pour les impressionnistes. Bon, ben, il y aura. Moi, je vous renverrai surtout au catalogue des expositions récentes. Hein, ce sera ça qu'il faudra aller voir. Par contre, il y a une Bible quand même. Alors, je vais quand même vous la donner parce que je vous la donne d'autant plus volontiers que vous ne la trouverez pas. Alors, c'est pour ça que je vous la donne. C'est vraiment l'historien sur les impressionnistes de référence encore et toujours aujourd'hui, et qu'il restera, je pense, toujours, c'est John Rewald, hein, qui a fait une histoire de l'impressionnisme, mais qui est toujours d'actualité, je dirais. Elle sera jamais contrée. Goethe a contré Newton, là on ne contrera pas. Hein. Et il y a un petit topo sur la ferme Saint-Siméon, alors je vous le livre rapidement. La ferme Saint-Siméon, où Boudin avait autrefois amené Courbet et Chasne, était très populaire parmi les artistes de la côte. En fait, tant de peintres y avaient travaillé. Donc il y a déjà quasiment tous les peintres de l'école de Barbizon. Diaz, Troyon, Daubigny, Corot. Cette auberge rustique qui domine l'estuaire de la Seine avait reçu le surnom de Barbizon normand. Hein, c'est pour ça, puisque c'était essentiellement les peintres de Barbizon. Pendant son séjour, le peintre Basile, dont on reparlera, y rencontra Boudin, mais ne put rester longtemps à travailler car il devait rentrer à Paris, où il apprit du reste qu'il avait échoué à ses examens. Monet aussi est allé dans cette ferme, et voilà ce qu'il dit. Un certain 15 juillet, Basile vient de partir et Monet écrit une longue lettre. « Tous les jours, je découvre des choses toujours plus belles. C'est à en devenir fou, tellement j'ai envie de tout faire. Je suis assez content de mon séjour ici, quoique mes études soient plus loin que ce que je voudrais. C'est décidément affreusement difficile de faire une chose complète sur tous les rapports. Je veux lutter, gratter, recommencer, car on peut faire ce que l'on voit et ce que l'on comprend. C'est à force d'observation et de réflexion que l'on trouve, etc., etc., etc. » Et il dit... On est admirablement à Saint-Siméon et on me parle souvent de Monsieur Basile. Voilà, donc il avait beaucoup marqué aussi Frédéric Basile quand il était là-bas. Bien, alors là, donc, on vous a remis une frise Alors, si je me mets en face, je vais arriver peut-être à lire. Voilà, 1800, je vais pas vous... Alors, je prends les dates importantes. Hein. 1840, Corot peint la ferme tout en à Honfleur. En 44, Corot découvre le Havre, découvre au Havre les dessins de Boudin exposés à la librairie. En 1845, la famille Monet s'installe au Havre, donc on est bien dans cette région de Normandie. 1859, les dessins de Monet sont remarqués par Boudin lors d'une exposition au Havre. Donc c'est important, hein, si on vous a mis ça, c'est parce que c'est important, tout ça pour la suite. 1859, Boudin et Courbet se rencontrent chez Charles Baudelaire à Honfleur. 1862, Monet rencontre John King à Honfleur. 64, Monet séjourne à Honfleur avec le peintre Basile. Ils prennent leur repas donc à l'auberge de Saint-Siméon, dont je viens de vous parler. 1864, c'est ça toujours ? Oui. John King revient à Honfleur et travaille en compagnie de Boudin, Monet, Daubigny, Ribot et Basile. 1864 toujours. En septembre, John King et Monet peignent ensemble à Honfleur la chapelle Notre-Dame de Grâce. Merci. Avec mon problème visuel, j'ai un problème sur les côtés, j'ai toujours du mal. Je lis au milieu, puis pas sur les côtés. Mais ça, on l'a remarqué avec mon ophtalmo. 1865, la ferme Saint-Siméon est vendue et la mère Toutain est remerciée. Voilà comment on apprécie les gens. Toujours en 1865, l'été, Gustave Courbet séjourne à Honfleur. Toujours la même année, en septembre, John King peint sa dernière aquarelle de Honfleur. En 66, l'été, Monet séjourne à l'hôtel du Cheval Blanc où il achève les femmes au jardin. En 73, Monet peint au Havre la toile intitulée Impression de Soleil Levant. Impression Soleil Levant, elle devient Impression Soleil Levant après, apparemment. 1868, Alexandre Dubourg fonde le musée de Honfleur et en 74, donc première exposition chez le photographe Nadar. Voilà, je l'ai lu pour ceux qui étaient trop loin, ça va ? Oui ? Bien, alors, on vous a remis certaines œuvres que vous aviez déjà vues l'an dernier, peut-être. Donc, Camille Corot, en 1840, la ferme Toutain à Honfleur. Alors ça, on ne l'avait pas vu, je n'ai pas souvenir de vous l'avoir montré, puisqu'on était sur Barbizon, vraiment. Hein. Mais donc là, on a pas voulu, parce qu'il faut aussi, le temps passant vite, on a essayé de les montrer tout en même temps. Hein. Donc Courbet, qui lui aussi peint le jardin, mais donc on aperçoit la maison, la ferme derrière. Ici, ça, donc, cette auberge Saint-Siméon, hein, c'est la même, hein, de toute façon, la ferme Toutain ou l'auberge Saint-Siméon, c'est la même chose. Hein. Simplement, Toutain, c'est le nom de la tenancière. Et donc, vous voyez, alors chacun avec sa. On voit bien quand même le style de chaque artiste. Hein. Voilà, donc, pareil, là, je ne tiens pas à vous commenter. Alors, on vous a remis, donc là, dans les peintres précurseurs extrêmement importants. On a remis Corot, mais je ne m'attarderai pas cette année, puisqu'on l'avait bien traité l'an dernier. Hein. Donc, le port de Honfleur en 1823. Ensuite, un tableau de 1824. Moi, ce qui m'intéresse dans ce tableau particulièrement, eh bien, c'est le rythme qui est donné par les mâts des bateaux, hein, ce rythme vertical qui vient rompre systématiquement l'horizontalité du ciel et puis de notre premier plan. Si vous voulez. Hein. Ici, le tableau Pêcheur sur le quai de Trouville, qui, là aussi, hein, on a... Alors, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, là, dans le tableau de John King, quand je vous ai dit refuser, parce que, regardez, le ciel, hein, on est tout à fait dans le même esprit, ici. Hein. Sauf qu'on a, là encore, c'est pas blanc comme ça, hein, c'est beaucoup plus rosé. Hein, mais on a vraiment. J'espère que la prochaine fois, nous serons à la Maison des Syndicats et que nous n'aurons pas ce problème de couleur, hein, que nous avons cette fois. Hein. C'est vrai que c'est un peu embêtant pour les commenter parce que c'est c'est comme ça. Ici donc Courbet. Alors, peintre réaliste, naturaliste par excellence, hein, alors, qui lui aussi, d'une certaine façon, joue quand même un rôle hein, par rapport aux impressionnistes. De toute façon, les impressionnistes, que ce soit pour garder des choses, au contraire pour en rejeter, regardent tous ces artistes-là. Hein. Justement, ils vont réagir contre le naturalisme et contre le réalisme. Mais pour réagir, il faut bien que tout ça, ça existe. Peut-être que s'il n'y avait pas eu un Courbet, certaines choses ne seraient pas arrivées chez les impressionnistes non plus. Hein, donc c'est important. Alors ici, donc, vue prise en fleurs, l'embouchure de la Seine, hein, où vous avez un travail, notamment, bon, un travail finalement très intéressant parce qu'il travaille en strate. Hein. Si vous regardez le tout premier plan, hein, on a cette première strate. Bon, les choses s'animent un petit peu avec la végétation. Et puis après, de nouveau, dès qu'on passe au troisième plan, vous avez des strates, hein, avec l'horizon qui rejoint le ciel. Mais c'est vraiment un travail bah, pour aller loin dans l'art contemporain, à la Rothko. C'est des strates. Bon, les couleurs ne sont pas celles de Rothko, mais le travail est de la même façon. Alors, ce tableau que je trouve très très intéressant, à la mer orageuse, dit aussi la vague, en 1870. Donc là, nous ne sommes que 4 ans avant la première expo impressionniste. Hein. Tableau très très intéressant. Alors, en fait, c'est un peu plus contrasté. Et puis, c'est à peu près, oui. C'est un peu plus brun, disons, la partie au-dessus de la vague, là, qui rejoint le... qui rejoint le ciel, est un peu plus brune. Ici, on a tendance à la voir un peu plus verte, c'est un peu plus brune. Mais ce qui est intéressant, c'est le mouvement que l'on ressent bien dans ce tableau-là. Et puis, toujours cette façon, bah, regardez, c'est toujours en strate. Même s'il y a cette vague que l'on sent bien, justement... les nuages aussi qui sont très floconneux. Et puis alors, ce tableau-là que je trouve absolument extraordinaire, hein, celui de 1865, mais Courbet a fait... J'avais sélectionné une série de... justement de marines, où il n'y a pas forcément des bateaux, quoi, de bord de mer de Courbet, où il y a vraiment des tableaux qui sont, mais plus, qui vont plus loin que précurseurs pour l'art abstrait, j'ai envie de dire. Mais lui, c'est pas son but, hein. Il ne cherche pas à faire de l'abstrait. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne... Il n'en a pas conscience, hein. Mais il en est vraiment quand même précurseur parce que on a vraiment de la couleur sur une toile, avant tout. De la couleur, des bandes de couleurs, un travail avec la couleur. Et bien sûr, là, on a les tout petits personnages, hein, qui sont là. Mais avant tout, c'est, regardez, les trois quarts du tableau, plutôt les deux tiers, on va plutôt parler en tiers, c'est le ciel. Et alors le ciel est beaucoup plus animé, hein, il est plus rouge, quoi, rosé, pas rouge, c'est rosé, et plus bleu dans le haut. Hein. Mais ça ne change rien, si vous voulez, les contrastes sont beaucoup plus violents dans la réalité, mais ça ne change rien pour l'organisation du tableau. Et moi, aujourd'hui, où je veux attirer votre attention, c'est plus sur cette organisation. Hein, parce que c'est ça, chez Courbet, ce que vont retenir les impressionnistes et vont accentuer, c'est ça, justement. Hein, c'est cette façon d'organiser. Et là, il est précurseur, justement. Alors, Delacroix, alors peintre romantique, hein, par excellence, notamment avec ce très, très bel autoportrait, hein, où là, c'est vraiment la fibre romantique. Hein. Donc là, vous avez, on a mis plutôt, bah, puisque nous sommes en Normandie, donc des marines, hein, bien sûr, mer vue des hauteurs de Dieppe. Alors, bon, bah, on voit le côté, le ciel tourmenté. Bon, bah, là, on est vraiment dans l'esprit romantique. Par contre, moi, ce qui m'intéresse plus, peut-être pour toujours dans ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est celui-ci, hein, la porte d'Amont-Étretat 1849, parce que là encore, on a ce ciel qui occupe, bah, cette fois quasiment encore les deux tiers, hein, même si il est, bien sûr, on a les falaises qui se dresse, mais malgré tout, et puis alors une façon aussi d'aborder la plage et l'avancée de la mer sur la plage, qui est tout à fait intéressante, parce que c'est de nouveau traité, eh bien, à l'horizontale, avant tout, en strate. Là encore. Et puis, alors quelque chose qui là se réveille, et moi j'ai envie de dire, je suis certain qu'un Cézanne a regardé ce tableau-là, cette roche percée Étretat, quand il nous fait sa montagne Sainte-Victoire et toutes les déclinaisons qu'il peut faire sur cette montagne Sainte-Victoire. Parce que là, on est presque là aussi dans l'abstrait. Vous savez que si vous regardez toutes les montagnes Sainte-Victoire, à la fin, la montagne, elle disparaît chez Cézanne. Moi, je suis convaincue qu'il ne serait pas mort en 1906. Picasso n'aurait jamais été le père du cubisme, ça aurait été Cézanne, le premier peintre cubiste. Et notre ami, j'ai perdu son nom. Non, je cherche le peintre abstrait, le premier abstrait, Kandinsky. Kandinsky n'aurait non plus jamais créé la première aquarelle abstraite, ça aurait été Cézanne. Cézanne était vraiment parti pour... malheureusement, il est mort en 1906. Un jour, j'écrirai peut-être un livre si Cézanne avait vécu au-delà de 1906. Voilà. Parce qu'il y a longtemps qu'il est dans ma tête, ce bouquin. Alors, je ne sais pas si j'aurai le courage de l'écrire. Mais, et là, si vous voulez, moi, j'y vois la montagne Sainte-Victoire en gestation, on va dire. Alors, ça n'appartient qu'à moi. Mais allez voir ce soir les montagnes Sainte-Victoire de la fin. Allez-y. Vous qui n'êtes pas comme moi, qui pianotez sur Internet allègrement, allez voir tout ça et faites la comparaison. Vous verrez que j'ai un petit peu raison. La suivante, s'il vous plaît. Alors, Isabée, je vous disais, il est très, très, très intéressant aussi. J'ai regardé d'autres... Regardez cette modernité incroyable. C'est incroyable, ce tableau. Mais il faut dire que ça, je le dois quand même. Parce que ça, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, celui-ci. Alors, il est quand même fort, notre opérateur. Mais je crois qu'à la fin, le pauvre, il m'entend tellement parler de modernité que je dois lui tourner la tête quand je lui parle de ça, parce que maintenant, il cherche la modernité. Il est là, il doit, je l'imagine, il est là. Ah, modernité, allez hop. Et après, on propose. Non, mais c'est... Il est extraordinaire, ce tableau. Parce que quand on pense Isabée, on ne le pense pas comme ça. On le pense plus classique. Et là, on a quand même quelque chose où, avant tout, qu'est-ce qu'il fait ? Bien sûr, on est dans un souk. Mais qu'est-ce qui fait le tableau ? Ben, c'est la couleur. C'est la couleur qui est là, ces vêtements qui sont pendus. Et puis alors, ce qui est extraordinaire aussi, regardez, le cadrage. Extrêmement important, là. Parce que, bien sûr, si on se met comme ça, excusez-moi pour ceux que je gêne, je ne vais pas rester longtemps, si on se met comme ça, notre œil, il va directement ici. Mais très vite, on s'en va là. Et alors, si on se met comme j'étais, moi, tout de suite, là, on va directement. Et on a une suite d'enfilades. Et c'est très, très, très intéressant parce que le cadrage permet tout cela. C'est tout à fait fabuleux. Et nous ne sommes qu'en 1830. La photographie ne fait que balbutier, officiellement, en 1830. Donc, il est très fort. La suivante, s'il vous plaît. Alors, toujours Isabée, alors donc là, vous voyez, quand je vous disais l'histoire des strates, parce qu'en plus, là, regardez les formats qu'il choisit. C'est fabuleux. Ah oui, mais Isabée, allez voir. Moi, je redécouvre petit à petit, là. Je suis surprise. Parce que d'avoir vu là, ces tableaux-là, je suis allée voir un peu plus loin. Et dans mes différents bouquins, j'ai dit, mais c'est pas possible, Isabée, il a fait ça. Il est complètement mis aux oubliettes actuellement. Faites un micro-trottoir, Isabée. C'est le ministre de quoi ? Comment c'est plus les noms de nos ministres ? Alors, donc là, regardez, c'est d'une modernité, celui-ci notamment, tout à fait incroyable. On passe la suivante, s'il vous plaît. Alors, toujours Isabée. Et là, eh bien, même réflexion que tout à l'heure. C'est intéressant parce que le choix que nous avons fait, la dernière image que je vous ai montrée de le précédent, c'était qui le précédent déjà ? Aidez-moi. Courbet, où je vous ai dit, allez voir en gestation, regardez celui-ci, C'est quasiment, c'est plus figuratif là. Mais le cadrage est quand même intéressant. Parce que d'avoir choisi ce passage là justement, on va pouvoir jouer sur l'ombre, la lumière, sur les vides et les pleins justement. C'est intéressant comment ça nous est proposé, hein, ce rocher. En plus c'est une aquarelle. Donc l'aquarelle aussi, parce qu'on va jouer aussi avec les impressionnistes, c'est pareil, il y aura beaucoup de dessins impressionnistes. Hein. On va jouer sur les différents médiums, hein, que les artistes vont utiliser. Hein. Bon, là, je vous laisse regarder. Bon, là, c'est plus classique. Hein, celui-ci est plus classique. Quoique, notre ciel, hein, regardez aussi, toujours très, très bas, hein, dans la partie qui lui est réservée. Et puis là, la petite maison qui va se percher tout à fait. C'est ça qui est cette espèce de... Parce qu'on va retrouver aussi les importances des diagonales. Hein. Dans un tableau qui est à format oblong sur la longueur, là, on a un beau rectangle, là, et on a cette diagonale. Et la diagonale, elle part vraiment d'un bout à l'autre. Hein. Elle arrive vraiment... Et ça, c'est intéressant aussi, hein, cette découpe dans le tableau. Alors, John King, hein, bien sûr, qui lui, dont on va reparler. Hein. Alors, Saint-Valéry en co soleil couchant. Alors, c'est beaucoup plus rouge. Hein, ce qui est orangé ici, en fait, le soleil, c'est beaucoup plus rouge. Et puis, c'est plus sombre au premier plan, un petit peu plus sombre. C'est très, très intéressant parce que dans ce tableau de 52, là, on rentre avec l'obscurité dans le tableau. Hein. Pour aller vers quelque part, à différents passages, qui nous ramènent ensuite à la lumière, puisque je vous disais, c'est beaucoup plus rouge-orangé. Hein, le bandeau qui est ici. Et on voit bien le soleil. Hein, vous l'apercevez. On le voit là, il est le petit morceau de demi-cercle là, il est vraiment en train de se coucher. Hein. Et puis donc, la plage à Sainte-Adresse. Alors là, on dirait presque qu'elle est en noir et blanc. Alors que dans la réalité, c'est plutôt du bleuté. Hein. On est dans des gris bleutés. Hein. Mais ça ne vous empêche pas de voir les choses. Hein. Voilà, on va passer. Toujours John King. Avec ici cette aquarelle qui est superbe parce que c'est vraiment du dessin. Mais du dessin très moderne. Oui, bah, exactement. Moi, j'allais dire, ça me fait penser un peu à du Bernard Buffet. Vous savez, le côté très, très stylobique, quoi, j'ai envie de dire, très, très écrit. Et monsieur disait, c'est presque une BD, c'est vrai, que c'est vraiment du dessin. Et ça aussi, c'est très fort, parce que c'est très moderne, aussi, à cette époque. Nous ne sommes quand même qu'en 1864. Il faut toujours regarder les dates. Même si je ne les retiens pas, je les regarde, parce qu'elles ont une importance capitale. Là, quelque chose de plus classique, par contre. Il y a plus un témoignage iconographique, là, hein, avec les bateaux, l'hôtel-auberge, je suppose, quoi, la grosse maison bourgeoise qui est à l'arrière-plan. Là, c'est plus un témoignage iconographique, mais c'est important aussi. Et Daubigny, alors là, je vous remets des choses. Il y a des choses qu'on avait vues l'an dernier, je crois, je ne sais pas celle-ci, je ne sais plus. Oui, peut-être celle-ci, je me souviens plus si je vous les avais montrées. Mais je pense pas parce qu'on était resté plus sur notre région de Fontainebleau. Mais bon, bah, vous aviez vu Daubigny. Alors là, c'est pareil, regardez, je m'arrête. Bon, bah, je vous les laisse tous, mais moi, je m'arrête sur deux qui sont pour moi capitaux. C'est celui de 65 et celui de 73. Hein, parce que on a... Alors là, c'est plus... dans celui de 65, c'est on coupe le tableau en deux. Hein, il y a deux bandeaux. Bandeau supérieur, bandeau inférieur. Hein. Et on introduit à l'intérieur eh bien, des petites choses. Hein. Mais avant tout, c'est vraiment deux bandeaux. Hein. Et on a quasiment la même chose ici, avec les très beaux ciels. Tout se joue dans la transparence. Hein. Regardez les ciels de Daubigny. Ils sont intéressants. Hein. C'est le très, très, très beau ciel du soleil couchant. Sublime. Donc, et là, on voit impression soleil levant d'où ça vient aussi. Vous voyez, ça, cette réflexion-là, c'est un point de départ. Alors après, Bon, ben, on va triturer tout ça, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça aussi, parce que l'impression soleil levant, bon, voilà. Hein, la modernité, elle est plus, plus, plus. Et tout de suite, le précédent, là, quand on a dit, on dirait une BD, dans l'impression soleil levant, quelque part, c'est aussi un peu écrit comme ça, un peu écrit façon stylo bille. Si vous mettiez les deux, tiens, il faudra qu'on refasse ça, du travail pour vous. Vous mettrez les deux, vous mettrez, mais on fera un truc avec les trois et vous allez voir, c'est intéressant. Mais parce que moi, je ne sais pas faire, mais je trouve que c'est fabuleux. Maintenant, je ne jure plus que par l'informatique, moi qui ne sais pas m'en servir. Alors, Bouddha, lui, qui a... Bah, pareil, il y a une très belle expo hein, au musée... ça y est, j'ai encore reperdu le nom, je perds toujours le nom. Le petit musée qui est dans les beaux quartiers, là. Non, pas Marmottan, et qui est aussi dans les beaux quartiers. Non, Jacques Marandré. Jacques Marandré. Il y a eu une très belle expo sur Boudin, que mais c'est terminé ça, mais que j'ai pu voir. Et il y a un catalogue, hein, c'est pour ça que je vous le dis, il y a un catalogue. Et bon, alors lui, bien sûr, très 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 fort pour les marines. Et regardez, cette entrée du port de Honfleur, moi, elle me fait penser au souk d'Isabée tout à l'heure. Dans la répartition des couleurs, regardez comment le rouge là il est présent. Hein. Et les voiles qui sont bah, aussi là, qui claquent, qui sont là, qui sont et qui rythment. Hein. Et qui regardez comment celles-ci, les voiles là, comment elles se mêlent à la déformation des façades des bâtiments. C'est le départ et ça enchaîne. Voyez. Comment on part dans une espèce de demi-cercle, là, à partir des voiles. Donc, toutes ces constructions-là sont extrêmement intéressantes. Suivre, s'il vous plaît. Alors, toujours Boudin. Alors là, bon, ben, on vous a mis les tableaux, parce que Boudin est surtout connu pour ce genre de tableau-là, hein, où il y a toujours les petits personnages, donc les taches de couleurs, très importantes, hein, qui réveillent un petit peu, justement, hein, parce que sinon, et regardez les ciels placés très bas, à chaque fois, deux tiers, hein, toujours. Et alors, c'est vrai que... Alors, c'est Boudin qui faisait appel à Troyon, c'est ça, pour ses ciels. Il faudra que je regarde ça. Le contraire, Troyon qui faisait appel. C'est Troyon, oui, Troyon, le peintre Troyon, qu'on a vu l'an dernier, faisait appel à Boudin pour les ciels. Ils se connaissaient tous. La suivante. Donc, alors là aussi, ça c'est vraiment les tableaux que l'on connaît. Hein. Regardez celui-ci. Faut mettre en parallèle les deux là, 67 et 69. Hein. C'est au niveau du cadrage, c'est très intéressant parce que là, vous avez quelque chose de plus étalé et là, on a une vue resserrée. Et là, on a davantage zoomé sur ce groupe de personnages. Hein. C'est intéressant. Et puis alors après, le ciel, à chaque fois, aux deux tiers, mais travaillé bah, selon les heures de la journée, hein, et puis selon le climat, selon ce qui se passe au niveau du ciel, quoi, de la météo. Hein. Et c'est très, très intéressant de voir comment il a... Finalement, j'ai envie de dire, les personnages qui sont là ne sont que des prétextes. C'est exactement le même propos que Rembrandt avec sa ronde de nuit. Ronde de nuit, le sujet n'est pas intéressant. Mais il est intéressant pour l'artiste parce qu'il permet de travailler le clair-obscur. Parce que le thème en lui-même, ronde de nuit, ça a été démontré. Hein, c'était pas... Mais grâce à cette ronde de nuit, on travaille le clair-obscur. Ici, bon, c'est bien, c'est témoignage iconographique pour la mode de l'époque, mais ils sont quand même loin, les personnages. On ne distingue pas vraiment comment ils sont vêtus. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le prétexte de mettre des personnages lui permet de travailler ses ciels de façon extraordinaire. Et puis de bien les ciels, de bien montrer qu'ils sont bah, finalement plus importants dans le tableau que les personnages. Les personnages, ils sont un petit peu comme des... Bah, ils sont volontairement... Bah, ça, c'est après, c'est tout évidemment, comment ça s'appelle les points de fuite et tout ça, mais il semble, je ne sais pas comment vous expliquer ça, on a l'impression qu'on les a rapetissés un petit peu, voilà, tassés, voilà, merci, c'est le terme que je cherchais, merci. On les a tassés ces personnages pour justement donner, Il faut qu'il y ait de la place pour les ciels. Hein? Et ça, c'est extrêmement important. Alors donc, les prémices impressionnistes, l'histoire de l'art s'écrit aussi par les rencontres. Hein? Alors donc, voilà, l'atelier de Basile. Hein? Renoir qui peint Basile. Basile, cette fois, qui peint Renoir. Hein? On l'a mis les deux. Renoir peignant Monet. Monet par Manet. Degas qui peint Monet. Degas qui peint Manet, Renoir peignant Sisley et Manet peignant Zola, le tableau très connu, bien sûr, parce que Zola a un rôle très très important aussi. Hein. Je vous recommande, alors là, je vous la recommande dès maintenant, la lecture des textes de Zola, hein, Mon Salon, Manet, tout ça. N'hésitez pas à relire ce Zola-là. Hein. Très très intéressant pour les commentaires que comme on doit lire Apollinaire par rapport au cubisme. Hein, et bien là, pour l'impressionnisme, relisez Zola, n'hésitez pas. Hein, mais Zola qui parle des salons, justement. Très, très intéressant. Alors ici, donc, on a différents portraits de Frédéric Basile par Renoir, que vous aviez en plus petit, que l'on revoit ici. Donc l'atelier de la rue Fürstenberg, là c'est l'atelier donc, de Basile. Et on vous a mis une œuvre de Basile, ici, le Héron. Et puis, Monsieur Colin a trouvé aussi Sisley, et on a l'impression que c'est quasiment le même. Hein? C'est intéressant là, de voir ces deux natures mortes au Héron. Hein? Oui. Oui, ah oui, parce que là, ah oui, parce que c'est le même, hein. C'est le même atelier. C'est dans l'atelier de Basile. Ils se réunissaient dans les ateliers, hein. Ils venaient dans les ateliers, oui. Tout à fait. Mais avec chacun la façon de l'appréhender, parce que là on est vraiment face, hein, ici, alors que là, il y a un léger... On n'a pas pris sur le même angle. Hein, et c'est intéressant de voir tout ça. Et puis, il est encore... il est en train de le peindre aussi, là, sur le tableau. Hein, c'est ça. Hein, il est aussi en train de le peindre, là, dans le tableau de Renoir. Ils sont tous... Ah oui, c'est fabuleux, ça. Hein? Fabuleux. Ouais. Ouais. Alors ça fait partie des recherches personnelles de M. Colin. Alors je crois qu'il mérite un grand merci, là. La suivante, s'il vous plaît. Alors, le fameux café Guerbois, le groupe des Batignolles. Donc, on y reviendra, hein, avec les différents artistes. Donc, le tableau, le célèbre tableau... donc avec les peintres, hein, on vous les a nommés en partant de la gauche en allant à la droite. Donc il est très très connu, hein, ce tableau-là. Vous pouvez le retrouver facilement. Une lithographie de Manet. Et puis donc le fameux propriétaire. Alors c'est Michel Lévy-Henry, hein. c'est marrant. Hein. Sans allusion à un personnage connu. Voilà. Donc, le propriétaire du Café Gerbois. Et ici, donc, le Café de la Nouvelle-Athènes, qui a une importance à Montmartre, qui viendra grandissante, hein, pour ces artistes-là. Donc, on vous a mis, bien sûr, le célèbre tableau La Prune de Manet, l'absinthe de Degas, hein, bien sûr. Alors, l'absinthe, on aura l'occasion d'en reparler aussi, hein, parce que ça aussi, la fée verte, elle était présente pour les artistes. Hein. Et puis une lithographie de Degas, lithographie des saints en 1878. Et donc là, c'est ce café de la Nouvelle Athènes, hein, ce lieu de rencontre des artistes. Hein. Alors donc la première exposition de ceux qui deviendront donc les impressionnistes. Donc 35 boulevard des Capucines dans les ateliers prêtés par le photographe Nadar, hein, comme on l'a dit. Et donc là, c'est le catalogue de la première exposition qui réunit 30 participants et 165 toiles. Voilà ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, on a conservé, alors voilà, là on vous a mis, alors je vous les commande pas, hein, puisqu'on reviendra là-dessus, mais là c'est simplement pour vous montrer. Donc Boudin, qui était le numéro 17, Braquemont Félix, numéro 18. Donc, ici Cézanne. Et,
Cézanne, les deux
Cézanne. Oui, les deux Cézanne, oui, voilà, c'est ça. Ouais. avec la moderne Olympia. Hein, et puis la maison du, c'est la maison du pendu, hein, c'est ça, je pense, de mémoire. Hein. Oui, c'est ça. Hein.
Sur le catalogue.
Oui, c'est ça, voilà. Ah oui, c'est parce que moi j'ai lu ce qui était. Ah oui, c'est ça, voilà, c'était Boudin. Oui, oui. Oui, parce que j'ai. Voilà. Oui, oui, parce que moi j'ai lu ce qu'il y avait écrit en dessous. Je veux dire, je connais pas Braquemont, donc. Non, c'est Boudin, ça, effectivement, pour le ciel, c'est ça. Alors là, Degas. Hein, les deux Degas. Bon, bah, vous connaissez, hein, aussi. Alors, ici. C'est Monet, là, les deux. Avec les boulevards, là, ici, hein. Très, très intéressant aussi, là. Il y a tout un travail partout. Il y a jusqu'à Caillebotte, hein, qui ne sera pas impressionniste, mais qui sera leur ami et qui va aussi nous faire des boulevards extraordinaires. Ils ont tous une façon. Vous verrez Pissarro. Pissarro fait des boulevards extraordinaires aussi, hein. Ça, les boulevards, on va les voir. Alors, ici, bien sûr, Monet, avec le Chant de Coquelicot. Et puis, voilà, notre fameux impression soleil levant, il est mieux que tout à l'heure pour refuser. Là, il commence à reprendre des couleurs. Hein. Voilà, l'appareil commence à nous redonner des couleurs. Là, ça va mieux. Berthe Morisot, bien sûr. Hein. Berthe Morisot, là, avec le berceau et puis la lecture. Hein. Alors, ici, Pissarro. Alors, lui, c'est vraiment c'est le printemps. Hein, ces jours où on a des paysages magnifiques de givre, mais où nous manquons vraiment de soleil, Pissarro fait du bien. On ouvre un catalogue de Pissarro, ça y est, vous avez le soleil qui rentre dans la maison. Hein, et même sur ces paysages de neige, il y a toujours un soleil extraordinaire. Alors ici, Renoir. Alors on reconnaît hein, les visages de Renoir, de toute façon, on les reconnaît hein, systématiquement. Voilà. Et donc, voilà, alors l'extrait de l'article de Leroy, « Impression, j'en étais sûre », je me disais aussi, « Puisque je suis impressionnée, il doit... » Alors, moi, je dois avoir la suite.
« Il doit y avoir quelque chose d'impressionnant. »
Voilà, « Il doit y avoir quelque chose d'impressionnant. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. » Donc, ce n'était pas un compliment, bien entendu. Hein. Donc, l'article paru en 1874 dans le Charivari. Voilà, donc je pense que c'était la dernière. Voilà, nous reviendrons donc bien sûr sur tout ça en détail, mais c'était pour vous mettre en appétit. Merci à vous. Merci. Merci à Monsieur Collin aussi. Hein. Je pense qu'il mérite qu'on l'applaudisse parce que... Merci.
Bien, je voulais rappeler qu'il reste des places pour le deuxième atelier de Mathieu Pinette sur le dessin. Et Claudine nous a fait une publicité indirecte, sans le savoir, en disant l'importance du dessin pour la composition de la peinture. Et le dessin, on le voit souvent comme un art qui est séparé. Donc, inscrivez-vous pour l'atelier qui commence le 19 décembre. La première séance, c'est le 19 décembre. Voilà. Là, ici, oui. Oui, on reste là. Comment ? Ah oui. On inverse Monet-Manet.
Oui, ah oui, faut que je dise. Nous inverserons, ce sera Manet en priorité et Monet en second, ce qui est logique. Hein, il y avait un petit erreur au départ, alors n'ayez crainte, ce sera d'abord Pissarro, ensuite Manet et ensuite Monet. Merci. Bon. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Oui, alors, en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer,
c'est quoi la toilette que tu...